Il est 8h22, bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
À la une de la presse française, 7 nouveaux saints au sein de l'Église. Le pape François va les canoniser demain et parmi eux, Paul VI et Monseigneur Oscar Romero.
Oui, c'est en effet la une des journaux La Croix et Le Figaro. Demain au Vatican, souligne Le Figaro, François portera la chasuble de l'ancien pape Paul VI et le cordon taché de sang de l'évêque assassiné, Monseigneur Romero, fauché d'un coup de fusil en pleine messe il y a 38 ans à San Salvador. Capitale de ce pays latino-américain du même nom. Quant à Paul VI, qui a été pape de 1963 à 1978, il demeurera le pape du Concile Vatican II, rappelle Le Figaro. De son côté, La Croix se demandant une si les papes sont voués à devenir saints. Paul VI, en tout cas, deviendra demain le 4e pape du XXe siècle à le devenir, signale le quotidien catholique français.
En Afrique, Norbert, c'est aujourd'hui un samedi électoral en Côte d'Ivoire, samedi qui pose question.
Oui, c'est bien le jour où sont organisées les élections municipales et régionales qui interrogent. Cette question, c'est le journal Jeune Afrique qui la pose. Car, si nous sommes bien en effet samedi, l'article 33 du Code électoral ivoirien stipule que les opérations de vote ont toujours lieu un dimanche, rappelle sur son site internet ce magazine panafricain. C'est une première dans le pays, une nouveauté pour le grand public, complète-t-il. Dès lors, Jeune Afrique entend expliquer pourquoi voter un samedi fait débat. Outre la question du risque de taux d'abstention élevé évoqué par ce journal, Jeune Afrique souligne que, pour l'opposition, l'affaire est bien plus grave. Elle y voit une manœuvre qui vise à prendre tout le monde de court. Alors oui, pourquoi organiser ainsi un scrutin le samedi en violation de l'article 33 du Code électoral ? La nouvelle constitution n'indique aucun jour de tenue de scrutin, dit à Jeune Afrique un des vice-présidents de la commission électorale indépendante ivoirienne.
À l'OIF, c'est fait. La Rwandaise Louise Mushikiwabo en est désormais la nouvelle secrétaire générale.
Oui, elle succède à la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushikiwabo est présentée par Le Figaro comme une passerelle entre Paris et Kigali. Ce quotidien souligne qu'Emmanuel Macron, qui a soutenu la candidature de l'ancienne chef de la diplomatie rwandaise, n'a pas connu la colonisation, il n'a pas grandi avec les réflexes de culpabilité dont a hérité sa famille politique vis-à-vis du continent africain. Selon Le Figaro, son ambition nouvelle dépasse le cadre du Rwanda, rompant avec le paternalisme ou la condescendance de ses prédécesseurs. Le président français s'adresse au continent africain vis-à-vis duquel il a des rapports décomplexés comme un partenaire, un allié, analyse Le Figaro.
En Turquie, après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, les enquêteurs turcs soupçonnent un assassinat commandité par Riyad.
Que s'est-il passé au consulat d'Arabie Saoudite le 2 octobre dernier quand ce journaliste est venu récupérer des papiers nécessaires à son projet de mariage avec sa fiancée turque ? Un officiel turc décrit au New York Times une scène à la Tarantino, formule le journal français Libération. Une opération rapide et complexe avant que le corps du journaliste ne soit découpé à la scie. Le quotidien américain relie l'affaire aux cercles les plus élevés du pouvoir saoudien. Son confrère, le Washington Post, affirme même qu'Ankara détiendrait des enregistrements vidéo et audio des événements. Et en effet, la police turque soupçonne Riyad. Libération remarque que le très pro-gouvernemental quotidien turc Sabah parle d'un commando d'assassinat et publie dans ses pages les portraits de 15 personnes, extraits des vidéos de surveillance, noms et dates de naissance à l'appui. Parmi eux figurerait un médecin légiste, un ancien des renseignements, des membres de l'armée et de l'aviation militaire saoudienne. Tous seraient descendus dans deux hôtels du quartier de Levant, non loin du consulat saoudien, et repartis le soir même en direction du royaume à bord de jets privés. Selon le Washington Post, les services américains avaient connaissance d'un projet saoudien impliquant le prince héritier Mohamed Ben Salman, consistant à attirer Khashoggi dans un piège pour l'arrêter. De son côté, le journal La Charente Libre souligne qu'après plusieurs jours de silence, les principaux fournisseurs d'armes à l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, exigent désormais des éclaircissements sur les faits graves évoqués par la Turquie. Et ce quotidien régional de l'Ouest de la France remarque que le président américain a déjà cyniquement fixé pour tous les limites des mesures de rétorsion éventuelles contre le despote saoudien. Le point de vue de Donald Trump, résumé par la Charente Libre, serait ainsi que les ventes d'armes à Riyad iraient alors dans les poches des Chinois et des Russes. Conclusion déduite de ce qui précède, Mohamed Ben Salman serait au pire prié de se faire plus discret pour éliminer ses opposants en toute impunité, soupire la Charente Libre.
Et puis enfin en France, Norbert, c'est un coup dur pour le Parti Socialiste qui tient son Conseil National aujourd'hui à Paris, puisque le chef de file de l'aile gauche du PS, Emmanuel Morel, a claqué la porte du parti pour rejoindre la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, et son allié Marie-Noëlle Lienemann doit à son tour annoncer sa défection aujourd'hui, prévient le journal Libération. Dans un entretien au journal Le Monde, Emmanuel Morel déclarait hier, je cite, « Mieux vaut partir plutôt que de se mentir à soi-même et aux autres. Le PS ne correspond plus à l'idée que je me fais du socialisme. » Et il ajoutait cette phrase « Ce n'est pas un départ, c'est une scission », dit donc Emmanuel Morel au quotidien Le Monde.
Merci Norbert Navarro, revue de presse à retrouver sur le site internet de Radio France Internationale, RFI.fr.